Chapitre 2. La ruine de l'homme et la gloire de Christ. En lisant l'évangile selon Jean, souvenons-nous qu'il présente la mise de côté de l'ordre de bénédiction judaïque et terrestre pour introduire ce qui est entièrement nouveau, céleste et éternel dans son caractère. Ce nouvel ordre de bénédiction, le christianisme qui implique la révélation des personnes divines, ne pouvait intervenir avant l'incarnation de la parole. Seule une personne divine est assez grande pour révéler les personnes divines et faire connaître le propos du cœur de Dieu. Dans le christianisme, tout est fondé sur la personne du Fils. Nous pouvons donc comprendre que l'évangile commence par la présentation de la gloire de sa personne, posant ainsi le fondement de toute bénédiction durable pour l'homme et de toute gloire pour Dieu. Cependant, pour que nous soyons en état de profiter de la révélation des choses célestes, nous devons d'abord être convaincus de la condition désespérée et de la ruine totale de l'homme déchu. Cette manifestation nécessaire de l'homme est placée devant nous dans le chapitre 2. Nous y apprenons, premièrement, que l'homme ne peut assurer son propre bonheur dans les choses naturelles et justes, le vin vient à manquer, versets 2 à 11. Deuxièmement, l'homme ne peut pas se prévaloir de la religion que Dieu lui a donnée pour assurer la bénédiction sur la terre. Le temple est corrompu, versets 13 à 17. Troisièmement, l'homme ne peut pas apprécier la bonté de Dieu lorsqu'il condescend à demeurer au milieu des siens, plein de grâce et de vérité. Christ est rejeté, versets 18 à 22. Enfin, par sa raison naturelle, l'homme ne peut pas connaître Christ, car même s'il parvenait à une conclusion juste quant à Christ, celle-ci laisserait l'homme loin de Dieu. Il n'y a rien en l'homme déchu à quoi Dieu peut se fier. Versets 23 à 25. De plus, si ce chapitre nous parle de la ruine de l'homme, il découvre aussi la gloire de Christ, apportant le vrai bonheur, agissant à l'égard de tout le mal, vainquant la puissance de la mort et attirant à lui. Versets 1 à 11. La noce. Citation de l'Écriture. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les vaisseaux. » Et ils les emplirent jusqu'au haut. Et il leur dit, « Puisez maintenant, et portez-en au maître d'autel. » Et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'autel eut goûté l'eau, qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'autel appelle l'époux et lui dit, « Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre, après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Fin de citation. À côté de l'enseignement dispensationnel de la noce de Cana, qui nous présente la restauration des relations de Dieu avec Israël dans un jour futur, nous avons la grande leçon morale que toutes les choses terrestres sont incapables de procurer une joie durable. Le mariage est la circonstance la plus marquante de la vie de l'homme naturel. Et, à juste titre, celui-ci cherche à en faire une occasion de fête et de joie. Hélas, le vin de la joie humaine vient à manquer. L'homme est incapable d'assurer son propre bonheur. S'il lui était possible de le réaliser par des moyens humains, il se pourrait que, dans des circonstances exceptionnellement favorables, tous les éléments pour garantir son bonheur se trouvent réunis. L'homme peut disposer de la jeunesse, des richesses, et de la santé, et en tirer le meilleur parti d'une manière légale, comme dans le mariage, il n'en demeure pas moins que le bonheur ne durera pas. Le vin vient à manquer. au moment le plus beau de la vie, quelque chose viendra troubler le bonheur complet, et la joie du jour qui passe sera assombrie par la crainte de ce qu'apportera le lendemain. Les circonstances peuvent changer, la santé chanceler, la mort briser le foyer le plus heureux et mettre fin aux relations les plus étroites. Mais si la scène de la noce met au jour la faillite de l'homme dans ce qu'il a de mieux, elle manifeste aussi la gloire de Christ, s'élevant au-dessus de tout homme et de toute chose, et assurant à l'homme un bonheur qu'il ne peut se garantir par lui-même. Nous apprenons ici que, sans Christ, il n'y a pas de joie durable. En outre, si Christ assure le vrai bonheur, il le fait comme étant totalement séparé d'Israël et du monde. Au verset 1, nous voyons un événement social dans lequel la mère de Jésus est impliquée. Le verset 2 montre Jésus et ses disciples formant un cercle distinct, séparé du monde. Ils sont conviés à la noce et, en réponse, le Seigneur honore la circonstance de sa présence, mettant ainsi son approbation sur une relation instituée par Dieu. Toutefois, lorsque le vin vient à manquer, il n'intervient pas à l'instigation de sa mère. Il dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Par sa mère, le Seigneur avait des liens avec Israël et la loi. En refusant d'agir en liaison avec sa mère, il montre que tout ce qu'il faisait, comme cela est présenté dans cet évangile, découlait de sa relation comme fils du Père, et non pas de lien naturel avec sa mère ou légaux avec Israël. Dans cet évangile, le Seigneur est toujours vu en dehors de toute relation terrestre, comme un homme céleste introduisant des choses célestes. Chapitre 3, verset 12. Il manifestait ainsi sa gloire comme étant en relation avec le Père, comme accomplissant sa volonté et assurant finalement la joie de l'homme. La manière selon laquelle le Seigneur procure le bon vin est certainement significative. Il fait remplir les vases de la purification qui étaient vides, et le vin est puisé dans ces vases. Cela ne nous enseigne-t-il pas, dans un langage symbolique, que le bonheur de l'homme ne sera garanti que si la sainteté est maintenue ? Versets 12 à 17. La purification du temple. Citation de l'Écriture. Après cela, il descendit à Capernaum, lui et sa mère, et ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Fin de citation. La noce de Cana nous a enseigné que l'homme ne peut pas assurer son propre bonheur par les moyens naturels que Dieu a institués. La deuxième scène, à Jérusalem, montre que l'homme ne peut pas se prévaloir de la religion que Dieu a donnée. Si Dieu pourvoit à une religion adaptée à l'homme dans la chair, afin de régler sa conduite et d'assurer sa bénédiction terrestre, l'homme la corrompt aussitôt et en fait un moyen de s'enrichir. La maison de prière pour tous les peuples devient le repère des changeurs qui transforment la maison du Père en une maison de trafic. Le Seigneur agit à l'égard de ce grand mal et justifie son acte judiciaire en revendiquant sa relation avec Dieu comme son Père et en affirmant que le temple est la maison de son Père. Ainsi, une fois encore, il manifeste sa gloire devant ses disciples, comme le Fils agissant dans son zèle pour la gloire de la maison de son Père, selon l'Écriture, « Le zèle de ta maison m'a dévoré. » Psaume 69, verset 9. Maintenant que le Fils est venu, ce psaume reçoit une signification plus complète et plus profonde, nous montrant que l'homme rejeté, dont parle le psalmiste, n'est nul autre que le Fils. Versets 18 à 22. Le temple de son corps. Citation de l'Écriture. Les Juifs donc répondirent et lui dirent : Quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses ? Jésus répondit et leur dit : Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs donc dirent : On a été 46 ans à bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Fin de citation. Les Juifs demandent un signe, donnant une nouvelle occasion de manifester ce qui est dans le cœur de l'homme. Dans sa réponse, le Seigneur indique que, par l'incarnation, son corps était maintenant le vrai temple ou habitation de Dieu. Le temple à Jérusalem était vide, et il allait très prochainement être appelé leur maison et livré à la destruction. Matthieu 23, verset 38 et 24, verset 2. Le temple à Jérusalem pouvait être corrompu. Aucune corruption n'était possible pour le temple du corps du Seigneur, malgré la violence dont les hommes useraient pour chercher à le détruire. À maintes reprises, ils essayèrent de lapider le Seigneur. Et enfin, quand l'heure fut venue, il leur fut accordé de détruire le temple de son corps. La méchanceté de l'homme devient une nouvelle occasion de manifester sa gloire comme fils, de même que sa supériorité sur tous les autres. L'homme peut détruire, mais il ne peut pas ressusciter les morts. Christ dit en quelque sorte : Lorsque vous serez parvenus à vos fins, lorsque vous aurez détruit le temple de mon corps, je le relèverai. Sa résurrection sera la déclaration en puissance qu'il est le Fils de Dieu. Versets 23 à 25. L'esprit naturel de l'homme. Citation de l'Écriture. Et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Fin de citation. Les derniers versets présentent une autre vérité importante. Bien que l'homme, placé devant l'évidence, puisse être conduit par sa raison naturelle à tirer certaines conclusions correctes, celles-ci le laisseront toutefois éloigné de Dieu. Ainsi, nous lisons qu'à Jérusalem, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Par l'évidence de la vue, leur raison naturelle les amenait à la conclusion que Christ était tout ce qu'il disait être, mais cela n'allait pas plus loin. Ils n'avaient aucun sentiment d'avoir besoin de Christ, aucun exercice de conscience qui les conduise à Christ. C'était une conviction à l'égard de Christ, fondée sur la vue, et non pas la foi en Christ qui les attirait à lui. Christ ne se fiait pas à eux. Cela manifeste encore sa gloire. Il est celui qui connaissait tous les hommes. Il connaissait ce qui était dans l'homme, et n'avait pas besoin, comme d'autres, que quelqu'un rende témoignage au sujet de l'homme. Il est le Dieu omniscient. Quelle image exacte de l'homme et du monde nous donne ce chapitre ? Les choses naturelles incapables d'amener un bonheur durable, les choses de Dieu corrompues, celui qui apporte la grâce de Dieu rejeté, la raison naturelle de l'homme, même lorsqu'elle est juste, le laissant dans l'éloignement de Dieu. Mais la mise à nu de l'état de l'homme ouvre la voie à la révélation de la gloire de Christ. Aussi, d'une façon très bénie, le chapitre présente Christ comme la ressource du croyant. Si nous expérimentons la faillite de toutes les choses de la terre, si nous sommes accablés par le sentiment de tout le mal qui s'est introduit dans les choses de Dieu, si nous voyons la mort sur tous, et nos esprits naturels incapables de parvenir à Dieu, au milieu de tous les manquements et de la ruine de l'homme, nous trouvons Christ, celui qui peut remplir le cœur de joie, agir à l'égard de tout le mal, briser le pouvoir de la mort et attirer à lui.